Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Radio. Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre, Bock-Côté, Martineau.
Mesdames et messieurs, retenez ça. Lundi 20 mars 2023, nous allons parler avec Mathieu Bock-Côté des 20 ans de la guerre en Irak et vous allez peut-être entendre Mathieu Bock-Côté avoir de bons mots pour Jean Chrétien. Mathieu, vas-y.
Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme intro. Je l'aurais pas commencé comme ça. Bien joué, bien joué. C'est une mise en échec réussie. C'est un échec émat. Mais tu as raison. Jean Chrétien a eu tout à fait raison de ne pas engager le Canada dans cette guerre, alors que d'autres dans la classe politique fédérale le souhaitaient. Tout comme en France, Dominique de Villepin a livré un discours magnifique quelques semaines avant la guerre d'Irak, où il montrait à quel point c'était une folle aventure dans laquelle allait s'engager des Américains. Et oui, je crois nécessaire d'y revenir pour une raison toute simple, c'est que c'est une guerre un peu inaugurale, en quelque sorte, dans l'histoire de la post-guerre froide. À la rigueur, on pourrait dire qu'il y avait la même chose un peu en ex-Yougoslavie, mais c'était pas la même chose. La guerre d'Irak, quand je rappelle les événements, la séquence des événements qui nous y conduit, au début des années 90, d'abord et en tout, une première intervention après que l'Irak ait envahi le Koweït, et les Américains mènent une coalition internationale, celle-là qui rassemble à peu près tout le monde, pour libérer le Koweït envahi par l'Irak, qui devient dès lors une forme d'État voyou, perçu comme tel, avec raison par ailleurs, dans le système international, sous surveillance des Américains, sous surveillance des Occidentaux. Là, on fait un petit saut dans l'histoire. 11 septembre 2001, l'attaque contre le World Trade Center, l'attaque contre le Pentagone, en fait, l'attaque d'Al-Qaïda contre les États-Unis. Les Américains ripostent naturellement en attaquant l'Afghanistan, qui était le régime taliban. Très bien. Mais là, il y a une espèce de saut, je dirais, logique et conceptuel qui s'opère. Plusieurs, dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia stratégique ou la nomenclature stratégique aux États-Unis, disent, eh bien, il faut profiter de cette guerre qui vient de nous être déclenchée pour contre-attaquer plus largement et profiter de cette occasion pour engager ce qu'on a appelé à l'époque la théorie des dominos démocratiques. Alors, qu'est-ce que c'était la théorie des dominos démocratiques? C'est l'idée qu'on va profiter de ça, on va envahir donc l'Irak, et qu'est-ce qu'on va faire? On va implanter un régime démocratique en Irak, donc on va chasser le dictateur Saddam Hussein, on va implanter un régime démocratique en Irak, puis là, il va avoir un effet d'imitation dans la région, le Moyen-Orient va être démocratisé, et à terme, parce que le Moyen-Orient va être démocratisé et que les démocraties ne font pas la guerre entre elles, eh bien, ça va donner, à terme, une planète pacifiée sous le signe d'un empire américain bienveillant. Et les Américains, donc, pour mener cette offensive, parce qu'ensuite, il y a Saddam Hussein, qui était un dictateur atroce, sans le moindre doute, n'était pas à l'origine des attentats du 11 septembre. Donc, les Américains vont lancer une double accusation. A, vous étiez néanmoins dans le 11 septembre. B, vous fabriquez des armes de destruction massive. Et on se souvient de Colin Powell, qui est une grande figure de la première guerre d'Irak, qui joue sa crédibilité internationale. Il est secrétaire d'État de la Défense, je me trompe pas. Il est secrétaire d'État sur les États-Unis, qui présente une fiole aux Nations Unies en disant que dans cette fiole, il y a des armes chimiques. Et c'était faux. Donc là, on prend double prétexte et ils envahissent. Au nom, comme je le disais, au nom de la théorie des dominos démocratiques, bien davantage qu'au nom du pétrole, soit dit en passant. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les résultats, ça a fait un désastre. Ça a engendré quelques années plus tard la formation de l'État islamique. Tout comme en 2011, quand il va y avoir une intervention semblable en Libye, ça va entraîner la crise migratoire qu'on a connue ensuite. Donc, ce qui est assez fascinant, en un mot, c'est tout simplement que cette guerre est inaugurale. et croyant agir au nom de l'expansion de la démocratie, a semé le monde dans un bien pire chaos.
Mais tu sais, Christopher Hitchens, que j'aime beaucoup, bon, qui est décédé maintenant, ancien penseur de gauche, mais qui a changé son fusil d'épaule. Christopher Hitchens appuyait vraiment Tony Blair et George Bush là-dedans sur l'intervention en Irak en disant, lui, il croyait justement à la théorie du domino démocratique, là.
Ouais, ben, il ne fut pas le seul. Il y a des gens que j'estime aussi qui ont cru à ça. Mais je pense que c'est là-dessus que Christopher Hitchens demeurait un homme de gauche. C'est-à-dire Christopher Hitchens demeurait convaincu qu'il suffit, parce que c'est toujours l'idée suivante, c'est que l'homme uni serait partout le même. L'homme serait uni. Les cultures seraient un peu... les cultures seraient des stocks de coutumes qu'on pourrait facilement déplacer pour permettre à l'homme émancipé de la modernité d'apparaître partout. Puis Hitchens pensait qu'il suffit, ça c'était toute une théorie politique qui est forte aux États-Unis, mais on installe un régime qui, avec une constitution plus une économie de marché qui transforme profondément un pays, et on accouche d'un homme démocratique très rapidement. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'on ne fait pas pousser des New Jersey par décret, et puis les pays qu'on envahit comme ça, comme l'Irak ou ensuite la Libye, c'est des pays qui étaient tenus par un dictateur très souvent, qui étaient traversés par des tensions profondes, qui étaient traversés par des logiques archaïques, des guerres ethniques, des guerres religieuses, tout ça, et qu'intervenir comme ça, on croit faire être l'homme démocratique, mais dans les faits, on libérait des forces de chaos incroyables, et Hitchens, comme d'autres, a cru à une forme de guerre révolutionnaire qui allait permettre de libérer l'être humain partout sur Terre. Je pense que, de ce point de vue, c'est l'échec d'une certaine conception néo-wilsonienne qui consiste à dire on va semer la démocratie à travers le monde. L'être humain ne fonctionne pas comme ça.
Et la question quiz derrière ça, c'est est-ce qu'on peut imposer la démocratie avec un fusil?
Ah ben moi, la réponse, je pense, il y a 20 ans, je crois. En fait, plusieurs de ceux qui croyaient à ça, c'est-à-dire on l'a fait avec le Japon et l'Allemagne après la guerre, donc on est capable de le faire avec les pays arabes. Et là, c'est vrai, je pense qu'il y a une espèce de mauvaise lecture historique. L'Allemagne a certainement accouché du nazisme, et avec l'horreur absolue du nazisme, mais l'Allemagne, c'est un pays qui avait aussi une tradition philosophique, une tradition des Lumières. Oui, démocratique, en fait, je dirais libéral plus que démocratique, mais c'est un pays qui portait en lui la possibilité de la démocratie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et quant au Japon, c'est un pays qui avait une très grande cohérence culturelle, sociale, et qui s'était déjà, approprié les codes de la modernité occidentale tout en demeurant globalement fidèle à son génie. Et donc, il y avait une prédisposition démocratique possible à ce moment. Il y avait une possibilité démocratique au Japon. Je pense pas que c'est la même chose en Irak. C'est pas la même chose en Libye. C'est pas la même... Oui, excuse-moi, vas-y.
Non, mais tu sais, ce qu'on se disait, tu sais, on rentre dans ces pays-là, on enlève le dictateur, on l'arrête, on le tue, puis après ça, on ressort. Puis là, comme par magie, va pousser les plantes de la démocratie. Ben non, si on veut vraiment faire une opération de genre, faut rester là, faut éduquer les gens, faut construire des institutions, une nouvelle police, une nouvelle armée. Tu sais qu'on est rentré en Irak, on a
désarmé le parti bas.
On a désarmé, c'est ça. On les a désarmés, on les a sortis de l'armée. Ces gens-là qui vivaient par l'armée irakienne sont retournés chez eux en amenant leurs propres armes à feu, d'ailleurs, en apportant leurs propres armes à feu à la maison. Et là, ils se sont radicalisés, bien sûr.
Ben oui, ils se sont retrouvés souvent dans l'État islamique. Il ne faut jamais l'oublier, une partie des cadres importants de l'État islamique venaient justement des anciennes élites du régime irakien. Donc, on voit, moi, je regarde cela, et 20 ans plus tard, on essaie d'en tirer quelques leçons. Je pense que la première qu'on doit garder à l'esprit, c'est que les Américains sont vrais lorsqu'ils sont cèdent à la tentation de l'empire démocratique. Je devine qu'il y a des intentions légitimes derrière ça, là, mais ça conduit au désastre. Ça conduit au désastre. Le monde, l'humanité telle que nous la connaissons, n'est pas faite pour vivre sous une seule souveraineté, aussi bienveillante prétendent-elles être. Premier élément. Deuxième élément, les cultures existent. Les cultures existent, et vouloir imposer de force à un pays qui n'a pas connu son propre chemin vers la démocratie, une démocratie, eh bien, ça peut souvent entraîner des tensions bien plus grandes que celles que... En fait, ça peut libérer des tensions que le régime autoritaire antérieur était parvenu à contenir. J'ajouterais que La politique, ce n'est pas le domaine du meilleur des mondes, c'est le domaine du moindre mal. La politique a pour fonction d'éviter que le mal ne se radicalise, d'éviter qu'il ne déborde dans tous les domaines, dans tous les domaines de l'existence. Et quand on se dit qu'on va créer justement une planète unifiée où tout le monde va vénérer les mêmes droits et tout ça, ça correspond pas à la nature humaine. Et voyant tout cela, je pense qu'il y a aussi la conception très américaine de ce qu'on pourrait appeler très wilsonienne de la paix sans condition. Donc quand il y a une guerre, la seule manière de la faire arrêter, c'est de dire aux méchants du moment, vous devez quitter, démissionner. C'est les théories du changement de régime finalement. En plus que la paix sans condition, ça, je la distinguerais, c'est la théorie du changement de régime. Mais quand on décide d'appliquer la théorie du changement de régime, ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Donc, si on a tout ça à l'esprit, je pense qu'on pourrait tirer quelques leçons politiques de ces 20 dernières années. Je ne suis pas certain qu'on les a tirées.
Qu'est-ce que tu penses de ces pays-là qui disent à l'Occident, la démocratie, c'est bon pour vous, c'est parfait, ça fait partie de votre culture, de votre histoire, mais c'est pas bon pour nous, vous n'avez pas à imposer votre modèle au monde entier.
Je t'avouerai que là-dessus, j'ai évolué, comme tu dirais. Moi, je suis un occidental de la deuxième moitié du 20e siècle qui croit... Mon premier réflexe, c'est de croire que finalement, la démocratie est une valeur universelle dont tous devraient se réclamer. Bon. Ensuite, si je regarde l'histoire du monde telle que se présente à nous, je reviserai ma conviction antérieure sous le signe d'un certain réalisme. C'est-à-dire, j'espère sincèrement que tous les pays, d'une manière ou de l'autre, au fil de leur histoire, vont rencontrer l'idée démocratique, vont se l'approprier, vont savoir en faire quelque chose à leur manière, tout en sachant qu'en Occident même, elle ne donne pas les mêmes résultats partout. La démocratie à la française, c'est pas la démocratie britannique, c'est pas la démocratie qui est américaine et tout ça. Bon. Mais l'extension de la démocratie telle qu'on se la représente nous-mêmes, sur le mode d'une forme de colonialisme démocratique, on explique aux gens de quelle manière ils vont devoir s'organiser et vivre. Je pense que cette psychologie-là ne correspond ni à la situation objective de l'Occident dans le monde aujourd'hui, non plus qu'au respect de la diversité du monde. Dans la diversité du monde, il y a des pays qui ont des traditions plus autoritaires. Prends l'exemple de la Chine. Je me désole de ce qu'est la Chine pour les Chinois. J'espère qu'un jour lointain, qui nous échappe probablement, qui n'est pas à horizon humaine, la Chine va se démocratiser. Mais vu que c'est une civilisation millénaire dont l'expérience démocratique est inexistante, on peut souhaiter une extension des libertés. Ça, je pense que c'est un souhait raisonnable. On peut souhaiter une extension des libertés sur Terre, mais la construction d'une démocratie libérale à l'occidentale, c'est un fruit de notre civilisation, c'est pas le fruit d'une révélation universelle. On peut me trouver pessimiste, mais je crois que j'en suis rendu là intellectuellement.
Et en terminant rapidement, George Bush a quand même envoyé des jeunes soldats américains risquer leur vie. Plusieurs sont morts sur la base de mensonges. Est-ce que c'est une forme de crime de guerre? Est-ce qu'il aurait dû être traîné devant un tribunal international? Parce qu'il a quand même menti à son peuple.
Ça, c'est compliqué. Moi, je me méfie des cours internationales qui viennent judiciariser l'action des dirigeants. Je veux dire, ça, non pas que je trouve que j'ai aucune sympathie pour George Bush, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est une figure fils. Le père avait plus d'envergure. Mais le fils, non. Mais cela dit, de tels tribunaux, parce que l'on le voit, là, ils veulent, la Cour pénale internationale veut traduire Poutine. Bon, j'entends bien, mais comment réussir à faire la paix avec lui pour éviter que tout parte en...
OK, alors, oublions les cours internationales. Est-ce que ça aurait pu faire l'objet quand même d'un processus de destitution à l'intérieur des États-Unis?
Ça aurait pu, les institutions américaines gardaient cette possibilité-là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un président qui ment ouvertement son peuple,
oui.
Ça ne l'a pas fait. Mais là-dessus... Ça, moi, la judiciarisation de la décision politique, je la comprends dans certains cadres, mais en ces matières, je pense que l'ultime sanction de dirigeant, c'est de se faire battre aux élections. Ça, je pense que c'est la bonne manière de se débarrasser de quelqu'un en démocratie, c'est de le battre aux élections. Ensuite, puisqu'on la question du jour là-dessus, c'est Poutine, dis-moi, si on a le souhait que cette guerre ne dégénère pas, quoi, qu'on trouve d'ici 6 mois, 1 an, quelque chose comme une forme de paix relative qui calmerait les ardeurs et éviterait la mise en place d'un conflit global, je suis pas certain que d'annoncer à quelqu'un que dès qu'il sort de ses frontières, il va se retrouver devant un tribunal, soit la meilleure manière de trouver cette paix négociée. Il se peut que je sois trop pessimiste sur le genre humain, mais j'ai l'impression que c'est la construction du droit international tel qu'on le voit, se prend quelquefois pour une souveraineté alternative. La politique internationale est un jeu d'équilibre et de rapport de force, et en ces matières, je pense qu'il faut être plus prudent qu'exalté.
Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci. Bye. Bye bye.